Eh bien, bonjour, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes dans le florilège des arts. Je remercie tout de suite Claudia pour la réalisation de cette émission. Émission préalablement enregistrée. Donc, si vous voulez néanmoins nous poser des questions, nous faire des remarques sur les émissions à venir, ce sera une trilogie, une trinité d'émissions, eh bien, vous passez exclusivement par courriel électronique et avec mon invité, qui reviendra toutes les deux semaines, cela pendant six semaines, eh bien, nous n'hésiterons pas, bien sûr, à vous répondre si nous en avons la possibilité, au sens où s'il y a une question, évidemment, si ce ne sont que des observations, on vous dira peut-être merci ou bien on ne répondra pas. Mais en tout cas, s'il y a des questions, on se fera toujours un point d'honneur, bien sûr, d'y répondre. Donc, merci à Claudia pour la réalisation de cette émission. Merci à ceux qui nous enverront vos messages au fil de l'été, puisque ce sont des émissions des estivales. L'invité, justement, c'est quelqu'un que vous appréciez. C'est une émission que l'on retrouve normalement. Il vient au moins une fois par an. Il revient souvent en tant qu'ami dans d'autres émissions, mais il vient au moins une fois par an pour son actualité du vin. Il est propriétaire de Filovino, amour du vin, sa cave Cise, eh bien, à la Trinité, justement, la Trinité, de même qu'il y a au moins trois amours selon les Grecs, il y a Eros, il y a Philia et il y a Agapé. Peut-être que le vin, lui, eh bien, le vin, on le voit, il répond aux trois, il est les trois, il est Philia. Parce que il trinque, c'est l'amitié. Il est Eros parce qu'il y a bien sûr le vin de l'amour dont on sait qu'aux noces de Cana, eh bien, s'épuise à un moment donné toujours cet amour charnel, cet amour physique qui doit être dépassé par l'agapé, l'amour que l'on retrouve entre autres dans la scène, dans la cérémonie, le dernier repas pris par le Christ avec ses disciples. Vous devinez déjà de qui je veux parler, qui est mon invité et qui va nous accompagner durant les trois prochaines émissions pour un titre qui s'est voulu ambitieux. Il va bien falloir 3 heures pour le traiter, c'est-à-dire le temps long, l'Occident et l'absence de temps long. Comment renouer avec le temps long? Est-ce que d'autres civilisations participent à ce temps long? Alors, le temps, évidemment, le temps et le vin, Bruno Quenu, c'est indissociablement lié.
Bah déjà, le
d'abord,
vin.
Bonjour.
Bonjour, non, bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas, et merci de me donner la parole sur un sujet aussi vaste, hein, parce que c'est un sujet qui touche toutes les parties de la société, qui touche aujourd'hui les gens dans leur intimité, puisqu'on est dans une numérisation et dans une immédiateté invraisemblable. Donc évidemment que le vin, en tant que pilier de civilisation, parle du temps long. Le vin, c'est pas une bière, c'est pas une boisson immédiate. La bière, on la fait en 8 jours. Hein, on fait fermenter des céréales et puis c'est très rapide.
On brasse vite fait.
Le vin. Avant qu'on fasse des vins techniques qui permettent d'être faits en un mois et demi après la vendange. Le vin, avant, ça se faisait sur... Et encore, aujourd'hui, heureusement qu'on a encore des vignerons qui défendent ces vins-là, qui se font sur 2 ans.
Alors, Beaujolais pif, c'est Beaujolais, ça c'est très vite, ça.
Beaujolais primeur, ouais. C'était à la fois merveilleux comme idée. Le problème, c'est que ça a été aussitôt pris par le business. Et à chaque fois que c'est pris par le business, ça se termine toujours très mal. Et d'ailleurs, on n'en entend plus parler parce que...
De moins en moins.
On est quelques-uns à continuer de défendre un Beaujolais nouveau qui a de la gueule, qui a de la gueule de l'endroit et de, comme disait Jacques Puiset, et les tripes de celui qui l'a produit. Mmh. Mais aujourd'hui, malheureusement, le vin est rentré dans l'immédiateté. On fait, par exemple, pour le Beaujolais nouveau, pour qu'il soit exporté, qu'il soit vendu à la même date qu'en France, aux États-Unis ou au Japon. Vous voyez, avec les transports maritimes qui durent pour le Japon 3 mois, 1 mois, eh bien, on fait des doubles fermentations, c'est-à-dire la fermentation alcoolique plus la fermentation enzymatique qui transforme les acides, hein, donc qui est plus longue. Eh bien, là, maintenant, on inocule des bactéries pendant la fermentation alcoolique pour pouvoir que tout soit fait en même temps. Alors, quand on goûte les vins, bon, on se demande si c'est encore du vin, mais, et ça, je raconte un truc qui est banal, parce que c'est vraiment rien par rapport à tout ce qui existe comme artillerie pour faire du vin aujourd'hui technologique. Et c'est le problème, c'est que le vin justement nous raconte une histoire, c'est du silence et du temps. Le vigneron vit seul, devant les éléments climatiques, devant une cuve en fermentation qui s'arrête, qui reprend, etc. Il faut avoir des nerfs bien accrochés, il faut être très apaisé pour vivre ces éléments quand il y a de la grêle, quand il y a la peur du gel, quand là, avec la canicule. Avec, et on voit les vignerons qui s'en sortent, c'est toujours les vignerons qui se réfèrent aux anciens. Mais les écoles de viticulture et d'agriculture ont gommé toutes ces mémoires et on a des gens aujourd'hui qui sont démunis. S'ils n'ont pas eu un grand-père qu'ils ont su écouter dans le domaine, ils sont démunis devant les éléments, des éléments excessifs qu'on peut avoir, la canicule qu'on vient d'avoir. Eh bien, il y a des pratiques. Alors, c'est jamais magique, évidemment, mais c'est des pratiques qui ont fait dans les temps anciens, quand il y a eu des énormes canicules comme 1870 ou 1893, qu'ont fonctionné. Et donc, on a réussi à faire du vin dans ces années-là. Alors que là, on a des gens qui ne vont pas faire de vin. Vous voyez, si on veut parler un peu de l'actualité aussi. Là, c'est intéressant de voir l'écart qu'il y a entre une certaine catégorie de vignerons qui ont dépassé, qui ont pris la scolarité comme certains moyens, l'école de viticulture ou l'école d'agriculture, comme une certaine façon de voir, mais sans renier ce que les anciens racontaient et sur ce qui était déjà arrivé.
Les anciens, c'est souvent cet aspect de haute tradition aussi, donc, sur lequel on va revenir, bien
voilà,
sûr,
voilà.
Qui remonte à l'époque, au moins à l'époque médiévale.
Au moins à l'époque médiévale.
Et oui, et sans parler de l'Antiquité et du vin, bien sûr. Notre civilisation, elle est basée sur le vin. Alors, on rappelle aussi dans la représentation de Bruno Quenioux, il est chevalier des arts et des lettres, comme quoi finalement, eh bien oui, on est bien sur de l'art dont on parle du vin, hein, sinon ce ne serait pas le cas. Il est l'auteur d'un livre remarqué et remarquable aux éditions du Cherche Midi, La vie mystérieuse du vin, hein, un petit livre, mais un condensé d'amour du vin, de sagesse, d'anecdotes. C'est un livre fameux que j'ai lu plusieurs reprises, fait partie de ces livres que je relis de temps en temps. Mon cher Bruno.
Je suis très fier.
Ah bah, vous pouvez parce que ils ne sont pas nombreux les auteurs que je relis souvent. En général, un livre, je le lis parce que j'ai le respect de la personne que j'invite. Et donc je lis souvent, très souvent les livres des personnes que je reçois, mais par contre, il est rare que je revienne dessus. Là, par contre, c'est évidemment c'est pour moi le cas, ce qui explique toutes ces émissions que nous faisons depuis des années ensemble aussi. Alors, l'Occident a perdu le temps long. Vous disiez tout à l'heure, vous parliez des Galeries Lafayette.
Oui.
Des Galeries Lafayette, de l'auteur, du journaliste de Libération, donc c'est au moment où vous quittez les Galeries Lafayette
ça,
que
ça, ouais.
Philo Vino naît ou va naître, parce que justement, il trouve que le nom est bon et vous en faites votre enseigne. Aux Galeries Lafayette, vous êtes l'homme qui allait justement contre la modernité du vin, ou appelons ça le présent du vin, ou le progrès du vin,
oui.
Au travers la chimie du vin,
oui.
Au travers donc le Guy Parker, donc le fameux œnologue californien, américain, et vous allez être ce fier Gaulois, une sorte d'Astérix du vin, et vous allez eh bien être le dernier village qui résiste, sauf que ce dernier village, il a de la gueule, puisqu'il s'agit quand même des Galeries Lafayette et du Lafayette Gourmet que, sur le plan du vin, vous fondez, vous créez vous-même, c'est ça.
Bah, je dois rendre hommage à certains hommes des Galeries Lafayette qui, même si à l'intérieur, c'était vraiment... il y avait une espèce de guerre hein, à propos de mon sujet, puisqu'il y avait ceux qui disaient « si, si, faut qu'il continue », et puis ceux qui disaient « non, non, il faut arrêter ça, c'est n'importe quoi cette politique ». On était dans la politique des marques, hein, les marques de champagne, les châteaux qui étaient bien cotés, etc. Et on mettait en scène plutôt des vignerons qui étaient justement dans le temps long et qui cherchaient à faire des grands vins de terroir. Des grands vins, c'est pas les meilleurs vins du monde. Les grands vins, c'est les vins qui sont juste avec leur terroir et leur leur millésime. Donc, où le vigneron a réalisé une œuvre à la fois sur le plan horizontal et un lien entre le vertical et l'horizontal. Donc, cette espèce de croix entre le temps et l'espace. Et là, il faut bien reconnaître que ben, on était sans doute en avance, hein. ça parlait beaucoup dans les chaumières. J'avais beaucoup d'ennemis dans le vignoble, hein, parce que notamment dans la semellerie.
En particulier dans le Bordelais, hein, je crois.
Particulièrement dans le Bordelais, en Champagne aussi, parce que les grandes maisons de Champagne étaient remontées contre moi, puisqu'il y avait pratiquement aucune marque.
Il paraît que la maison Ruinard a commandé une petite affiche pour jouer aux fléchettes
C'était pas la maison qui m'aimait le plus. en fait, le champagne à l'époque, on était vraiment dans l'idée d'une boisson fraîche de soirée mondaine qui avait, selon la marque, selon le prestige de la marque, c'était à différents moments qu'on buvait. S'il y avait soirée un peu prestige, on buvait une marque un peu plus prestigieuse, et sinon, on buvait de toute façon une marque. Et le fait qu'aujourd'hui, si vous voulez,
c'est une marque, hein, finalement.
C'est une marque. Et en fait, on disait, le champagne, c'est des vins d'assemblage. Bon, si c'est des vins d'assemblage, ça veut dire qu'il n'y a sans doute pas de terroir. Et si on disait ça de la Bourgogne, les Bourguignons diraient, il n'y a pas de terroir. Si on est obligé d'assembler pour faire du bon vin, c'est qu'il n'y a pas de terroir. Et en fait, ce qui s'est passé en Champagne, c'est qu'il y a un nombre de jeunes vignerons qui ont voulu aller apprendre à faire du vin en Bourgogne. Parce que l'esprit bourguignon, c'est pas de faire le meilleur vin du monde, c'est faire le vin de terroir. Et donc, c'est comme ça qu'on a vu apparaître des Pascal Agrappa, qui sont devenus des stars. Les Champagnes d'Onon, Marguet.
Ils ont le même cépage, Chardonnay. Le Chardonnay c'est aussi bien,
etc.
Bourgogne que...
Exactement. Et donc, en fait, aujourd'hui, aujourd'hui, les domaines les plus prisés, c'est Selosse. C'est un tout petit vigneron. Qui est devenu très très prestigieux à Avize, c'est Agrappard, c'est Lassaigne, c'est des gens comme ça. Et donc en fait, il y a toute une catégorie de gens qui ne buvaient plus de champagne, qui étaient des amateurs de vin, qui se sont remis au bar à vin de Lafayette Gourmet, des Galeries Lafayette, à boire du champagne en étant surpris de voir qu'il y avait une expression. C'était pas seulement un vin blanc avec des bulles qui avait pas mauvais goût, qui dérangeait pas les papilles pendant la sieste, évidemment. Mais là, c'était le contraire. C'est-à-dire qu'il y avait une expression, il y avait quelque chose qui se passait. Et donc, il y avait un vrai plaisir à boire quelque chose qui nous percutait, qui nous racontait une histoire, qui racontait un message. Et ensuite, évidemment, Bordeaux, parce que Bordeaux, c'est un peu différent. Ils sont partis, pas tous évidemment, mais majoritairement, ils sont partis dans l'idée de faire des vins de critique. Ils ont oublié le gourmet gourmand.
Le 100 sur 100, voilà. Le 20 sur 20.
Exactement. Donc ils ont pris comme modèle, bah, évidemment, Robert Parker aux États-Unis, mais il y avait en France, oui. Il y avait un certain nombre de critiques qui étaient à peu près dans le même, dans le même lot, en Australie, en Angleterre, etc. Et en fait, alors ça leur a fait monter le prestige à un niveau incroyable, parce que c'était les seuls qui avaient des 100 sur 100 au Parker.
Et les prix aussi, hein, voilà, montaient à un niveau
incroyable. Et les prix
montaient.
Ils oubliaient un fait absolument incroyable, c'est quand on fait des vins de critique, on perd le gourmet gourmand, qui lui veut boire des vins de plaisir, il veut de la magie. Et les vins de critique sont faits avec certaines techniques, qui sont copiables hein, d'ailleurs, hein.
Ah oui, alors qui coûtent assez souvent cher, scientifiques,
voilà,
c'est pour
exactement.
Ça qu'elles sont
reproductibles. Et donc on retrouvait bah, tout doucement ce goût, c'est banalisé, parce qu'on a retrouvé le même goût en Australie, en Californie, etc. Et malheureusement, ça a coûté cher à certains domaines bordelais qui refusaient ces pratiques. Et donc, eux se sont retrouvés très mal notés. J'en veux pour preuve le Château Bel Air à Saint-Émilion. Pascal Delbecq, premier grand cru de Saint-Émilion, refusait ces techniques et il s'est retrouvé avec des notes de petit Bordeaux. Parce qu'il n'avait pas les épaules, le gras, c'est le sucre dans le jambon.
Le muscle.
Voilà, le muscle. Et mais il a fini par vendre. Et par contre, c'est marrant parce que quand il a fini par vendre.
Dommage.
Et quand c'est un premier grand cru classé qui est vendu, bah, qui rachète évidemment, c'est les oligarques. Et après, bizarrement, le vin il change de goût et il rentre dans la norme de ces vins de dégustation.
Ouais, c'est la pire des calamités pour moi dans le Bordelais, c'est Bernard Arnault. Qu'est-ce qu'il a fait de Cheval Blanc? Qu'est-ce qu'il a fait du Château Yquem?
Exactement. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'en faisant des vins de dégustation, des vins d'experts, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme il y avait des notes, les notes faisaient monter les prix. Eh bien, les fonds de pension et les fonds d'investissement américains se sont intéressés, notamment les Californiens, se sont intéressés au placement bordelais. Et ils ont acheté tous les ans des quantités de vin énormes, des grands crus classés. Ils ont encore des 90 dans les hangars. Alors des hangars régulés, température régulée, tout ce que vous voulez. Mais c'est des tonnes de vin qui n'étaient pas consommées. Et ils n'ont pas vu, quand je leur disais ça, ils me prenaient pour un rigolo, parce qu'ils ne m'écoutaient pas. Le vin se vendait tellement bien et tellement cher. Sauf que, à un moment donné, la bulle, elle a explosé.
Comme toutes les bulles.
Voilà. Et là, aujourd'hui, évidemment, c'est la cata. On trouve des super châteaux très, très, très chers. Enfin, les prix, évidemment, se cassent la figure, puisqu'il y a des quantités de vin sur le marché qui sont énormes et qui n'ont jamais été consommées. Ce qui fait que c'était un espèce d'airbag qui cachait la crise, qui cachait une crise qui était en préparation. Mais du coup, plus elle est attendue, plus elle est énorme. Donc là, c'est, puisque le sujet d'aujourd'hui, c'est quand même le temps long, ce sont des gens qui ont été dans le temps court, qui ont vu la note immédiate et vendent immédiatement en primeur en plus. C'est-à-dire qu'au printemps, après la vendange, avant, on vend le vin, ben vous prenez par exemple des domaines bourguignons où on reçoit les vins que 2 ans et demi
après l'avoir acheté.
Après, voilà. Donc,
en primeur.
C'est, voilà. Et donc là, ces vins-là ne sortent que très longtemps après, alors que là, d'un seul coup... Le prix était déterminé pendant les primeurs, c'est-à-dire au printemps, avec les notes. Et en fait, ils n'ont pas écouté le client du bout, parce qu'ils n'étaient pas dans le temps long. Ils ont été dans le temps court, ils n'ont pas regardé ce qui se passait, qu'est-ce que devenait leur vin. Et ça, c'est un exemple extrêmement symbolique. Et ça peut arriver à la Bourgogne aussi aujourd'hui, parce qu'il y a un certain nombre de vignerons très, très prestigieux qui n'ont plus accès à leurs clients du bout, parce qu'ils passent par des filières. Et les filières, évidemment, moi je viens d'organiser un voyage vignoble avec mes clients, avec des clients, pour essayer de leur montrer, et en même temps que les vignerons entendent les commentaires des clients, qui sont des vrais amateurs de vin, pas des experts, des vrais amateurs de vin, des buveurs. Des gourmets, ce que j'appelle des gourmets gourmands. Voilà, des gens qui boivent du vin le dimanche avec leurs enfants, avec leur famille, avec leurs copains, etc. Et bien les vignerons étaient super heureux de rencontrer des clients, des vrais consommateurs.
Non des experts.
Non des experts. Et ça, ça fait partie du temps long. C'est-à-dire que ça prend du temps pour les vignerons, mais au moins il y a une présélection, parce que les domaines bourguignons sont tout petits. Et s'ils commencent à recevoir... tous les gens dans un caveau, ils ne vont pas arrêter de faire déguster. Et il y a certaines cuvées qui font à peu près 2 barriques. À la fin, avant la mise en bouteille, il n'y aura plus rien dans les barriques. Rien que par la dégustation. Donc évidemment qu'ils ne peuvent pas recevoir tout le monde. C'est ça la grosse difficulté. Mais par contre, quand on leur présélectionne des clients qui sont des vrais amateurs, mais qui ne sont pas des... Voilà, ce n'est pas des stars, etc. C'est des gens juste qui aiment le vin. Eh bien, leurs commentaires sont très importants pour les vignerons aussi, et qu'il y ait ces échanges. Mais ça, c'est le temps long. C'est parce que on voit, et en plus, c'est des clients qui... y a des clients qui mettent 12 bouteilles en cave pour boire dans 5 ans, etc. Et c'est là où on a perdu quelque chose, parce que tous ces vins qui ont été super bien notés, quand ils étaient très jeunes, ils étaient encore en barrique, très souvent, ce sont des chevaux de course, mais des sprinteurs. Et après, les gens les débouchent, et d'un seul coup, on découvre... qu'ils n'ont pas été faits pour révéler le terroir au vieillissement. Ils ont révélé une expression technique.
Ils ont été faits là pour l'expert au tout début de ça.
Pour plaire tout de suite.
De sa maturation.
Voilà.
Mais alors, je me dis qu'il y a un rapport, mais je ne suis pas surpris, parce qu'on le retrouve dans tous les domaines, du vin jusqu'à la géopolitique, entre le temps court et ce que j'appellerais l'arrogance et l'orgueil, et le temps long qui va avec le fait d'être simple, d'être humble. La meilleure preuve, c'est ce que vous m'avez dit sur le vin, c'est-à-dire quel orgueil quand même d'être expert en vin, d'aller goûter le vin tout de suite alors qu'il ne sortira en bouteille au commerce que 2 ans après, et s'imaginer qu'on peut savoir tout déjà sur ce vin. Quel orgueil !
C'est toute la prétention de l'expert.
Oui.
L'expert sait. On a perdu les savants, on a gagné les sachants.
Mmh.
À partir de là, on a vu à quel point les critiques se sont trompées sur plein de vins. Je prends l'exemple tout simple, c'est le domaine Rousseau. en Bourgogne, ouais. évidemment, qui est je prends un exemple prestigieux, mais au
c'est
moins
sûr.
Les gens peuvent se renseigner, parce que le domaine, pendant des années, dans les années 80, a subi une critique dévastatrice, parce que les Bourgognes de ce domaine, les grands crus de ce domaine, ne correspondaient pas au type de vin que les experts aimaient. Et ce qui est drôle, c'est qu'en 2005, ils sont revenus en arrière, ils lui ont mis un titre de très très grand vigneron, alors que le vigneron, lui, il n'a rien changé.
Ah non ?
Il a fait des vins pratiquement comme son grand-père et son arrière-grand-père. Sauf qu'ils sont revenus en arrière parce que, bah, évidemment, quand les vins vieillissent, on voyait que d'un seul coup, il y avait des expressions absolument fantastiques dans ces vins-là. Et c'est des vins qui en mettaient, c'était pas de la saveur pornographique, c'était des vins dans la grande finesse, la grande délicatesse. Et il n'était pas tout noir, il n'était pas plein de tanins, etc. Mais, en fait, au vieillissement, on voit l'expression du terroir qui apparaît. Le terroir ne se révèle pas dans l'immédiateté. Le terroir, c'est une métabolisation lente de la matière, de l'énergie et de la matière qui vont à un moment donné se fusionner. Voilà. Et la matière va devenir énergie, l'énergie va devenir matière. C'est une unité. Et l'unité, bah, c'est comme chez l'homme, c'est rare que l'unité soit trouvée à 20 ans. Hein. L'unité se trouve au vieillissement. Alors pas tout le monde, parce qu'il y en a qui ne la cherchent pas. Mais quand on a une démarche spirituelle...
Oui, il y en a qui la trouvent tôt, mais en général ne vivent pas très vieux.
Oui, exactement.
Vous admirez par exemple le pilote de Formule 1 Ayrton Senna. Heureusement ouais. que cette unité, il l'a trouvée tôt, parce que sinon la vie ne lui a pas laissé suffisamment de temps pour le développer.
Exactement,
avec le temps. Ça dépend des hommes.
Exactement, et j'ai beaucoup apprécié ce que tu disais sur les demi-dieux grecs, la tragédie, qui ne vivaient pas longtemps, parce que justement, c'est des êtres qui arrivent et qui ont déjà les outils pour aller plus vite que les autres,
oui.
de trouver
oui.
dans leur chemin. Ils ont une foi qui est telle, je prends Bruce Lee, hein, qui démontrait les coups de poing sans recul, le ki, etc., avec une facilité incroyable.
Il y a une tragédie dans le demi-dieu, parce que c'est quelque part l'intuition de ce que nous sommes. Rappelons Saint-Irénée de Lyon, Dieu se fait homme pour que l'homme se fasse Dieu, mais nous, c'est un cheminement,
voilà.
alors qu'eux naissent,
et naissent
dans
avec
cette terrible dualité.
Exactement. Voilà. Et
c'est une tragédie.
Exactement, et Bruce Lee a démontré quelque chose d'absolument fantastique, c'est quand il a créé le Jeet Kune Do, c'est-à-dire qu'il dépassait les arts martiaux, il dépassait les techniques, il n'y avait plus de techniques, c'était l'esprit intérieur qui guidait tous ses gestes et toutes ses réactions. Voilà. Et donc il arrivait à percevoir, un peu comme Senna qui voyait ce que les autres allaient faire sur la piste avant même qu'il le fasse, et bien Bruce Lee percevait les gestes des autres avant qu'ils le fassent. Et donc, mais c'est des gens qui... c'est long de les étudier.
Ils sont un avec eux-mêmes et un avec l'autre, parce que s'ils savent à l'avance, c'est le geste de l'autre.
Exactement, parce que quand on est un, bah, c'est connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que quand on est un dans le tout, et dans le tout, et un avec l'autre, un en l'autre, et voilà. Donc... Mais ça, nous, évidemment, que c'est des marches lentes. Là, par contre, c'est le temps long, parce que on apprend tout ça.
Ce qui est le propre de l'homme.
Voilà. Et ce que tu disais tout à l'heure sur l'humilité avec le temps long, la simplicité et l'humilité, si aujourd'hui on a encore des domaines comme la Romanée-Conti qui sont là, et qui prouvent en permanence, chaque année est une renaissance pour eux, parce que Aubert de Villaine, dans les pires années de la technologie, l'arrivée des années 80, on a vu un amoncellement, une artillerie de technologie arriver dans le vin, et c'était le progressisme, on est en pleine religion du progressisme, donc on va faire des vins extraordinaires, etc. Aujourd'hui, Aubert de Villaine a résisté à ça pendant des années, en préservant le domaine, que ce soit en viticulture ou en vinification, à préserver le domaine de tout ça, à créer une barrière. Il ne le reniait pas, c'est-à-dire qu'avec beaucoup d'humilité, quand il y avait des conférences, il disait « j'entends ce que vous dites », on savait que ça n'allait pas arriver jusqu'à lui, jusqu'à la Romanée-Conti. Et ça, c'est vraiment des gens qui nous permettent, moi je me suis beaucoup inspiré de la Romanée-Conti pour ça, de Aubert de Villaine, de gens comme ça, de Domaine Rousseau, de tous ces vieux domaines, Domaine Haudebert à Bourgueil, qui n'a jamais suivi les modes. Il a appris avec son fils à faire des vins qui n'était pas du tout dans la doxa de l'époque. À Bourgueil, les années 80, on voit aussi arriver, surtout les années 90, un peu après, on voit arriver des nouvelles pratiques qui vont faire des Bourgueils très riches, très épais, boisés, etc. Et le père Audebert refuse catégoriquement. Alors, il ressemble un peu au professeur Raoul. Un jour, je dis à son fils, je retourne au domaine, je connaissais bien le père, c'est là où Jacques Puiset, Jean Carmet achetaient leur vin, parce qu'il disait, c'est du vrai Bourgueil. Ils voyaient plus tous ces nouveaux Bourgueils, pour eux, ça les intéressait pas du tout. Ces vins qui étaient bien notés, mais que Audebert n'a jamais cherché les notes. Ils voulaient boire des bons coups avec ses copains et boire le vin de la terre. Et alors, je dis au fils, mais comment t'as fait pour apprendre, comment est-ce que ton père, parce que vu que c'est un taiseux, comment est-ce que tu as fait pour apprendre ce qu'il t'a transmis, comment est-ce qu'il t'a transmis, comment est-ce que tu peux accepter aussi de faire des vins comme ça? Et là, le fils me dit, eh bien, quand je lui posais une question, il levait les épaules, il faisait une moue, et puis voilà, t'as qu'à voir. Voilà, t'as qu'à voir. Et en fait, le fils, comme il dit, ben, on met 15 ans à apprendre. Et ça aussi, c'est le temps long. C'est-à-dire, les techniques, c'est très facile. On les apprend en très peu de temps. C'est facile. Puis en plus, bon, il y a le manuel sur la technique, hein, tout va bien. Alors que apprendre à faire du vin par l'intuition, tout doucement, ça n'a rien à voir. J'étais l'autre jour avec Alain Dutournier, que ses maîtres à lui, lui ont appris à faire, je crois que c'est Alain Chapelle qui lui a expliqué, que quand il salait un poisson, eh bien la poignée de sel, quand le poisson était juste, c'était juste, il y avait une salinité dans la salive qui se développait. C'est-à-dire que tellement ces chefs-là étaient unis à la matière, au poisson qui était là, oui, dans le plat, eh bien il y avait une salinité qui se développait dans la salive. Quand il m'a raconté ça, je lui dis, c'est une histoire incroyable. Et il dit, moi j'ai appris ça, j'ai appris à ne jamais peser le sel, la pincée de sel. Je sais quand est-ce que c'est juste, puisque dans ma salive, il y a de la salinité qui se développe. Et ça, c'est là. Et comme il dit, j'ai mis des années, parce que la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais moi j'y arriverai jamais. Et c'est venu tout doucement, par la pratique. Donc c'est vraiment comme le compagnonnage. C'est le geste qui finit par transformer l'homme, c'est pas l'homme qui transforme le geste.
Ah ben, il y avait Alex Croquet, qui est un copain à toi.
Ouais.
J'étais allé le voir, il réussit à faire du pain qui a un goût de miel, et plus qu'un goût de miel, il y a les alvéoles de la ruche, alors qu'il n'y a pas de miel.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Juste avec un petit épeautre, je crois.
Oui, c'est ça.
C'est exactement ce que tu dis, avec la salinité qui se développe sans avoir goûté.
Sans avoir goûté. Et ça, je, moi, quand il m'a raconté ça, on était jurés au MOF sommelier. Et quand il m'a raconté ça, je dis, mais c'est formidable, faut le raconter. Et il dit, aujourd'hui, les jeunes chefs ne veulent pas passer par quelque chose qui est tellement impalpable, c'est tellement pas explicable, qu'ils veulent une explication. Et ils veulent quelque chose de rationnel. Non, mais moi, je veux saler, je veux savoir combien il faut en mettre. Voilà. Donc, c'est ça qui est perdu, qui se perd dans notre société. C'est cette espèce de... moi, j'aime beaucoup Jean-Paul Brun, bon, qui a vendu son domaine, mais Jean-Paul Brun, il me disait toujours, « Ah, moi, je me lève à 4 heures du matin pendant les vinifications. » Je dis, « Pourquoi tu te lèves à 4 heures du matin ? » Parce que les vendanges sont finies. Il me dit, « Je m'assois dans le chai et puis j'attends. » Alors il sait pas qu'il médite, hein. Il le sait absolument pas, mais en fait je lui dis, et qu'est-ce que tu fais? Je pense à rien. Bon, je pense à rien, mais je dis, mais rien, ah non, rien, et après je sais.
Ah,
voilà. Donc si on dit ça à un œnologue, alors là ça va pas aller, lui il veut savoir. Voilà. Et en fait c'est tout simplement qu'il se met dans un état d'écoute tel qu'il va être en relation avec telle cuve, telle barrique, etc. Et ça, c'est vraiment... Ça aussi, c'est le temps long. Jean-Paul, moi, je l'ai connu plus jeune. Il a appris ça sur 30 ans, 35 ans. C'est de l'imprégnation. C'est pas de l'apprentissage mental. Hein. Et on est bien là-dedans. On est vraiment... On n'est même pas dans l'apprentissage, parce que l'apprentissage rend intelligent. Aujourd'hui, on veut du savoir. Immédiat. D'ailleurs, L'IA est là pour ça.
Ouais, voilà. L'IA est là pour ça, Bruno. Je te propose une très courte pause, un petit bobino, puis on revient tout de suite après.
Vous êtes près de 2 millions à nous écouter, mais moins de 20 000 à donner. Pourtant, la gauche veut nous bâillonner, la gauche veut nous tuer. Répondez avec 1 euro. 1 euro pour garantir vos idées. 1 euro contre la censure. 1 euro pour rester libre. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Par avance, merci.
Voilà, chers auditeurs, vous êtes de retour dans ce florilège des arts en compagnie de Bruno Quenu, le propriétaire de Philovino à la Trinité Paris, et puis l'ancien fondateur du Lafayette Gourmet, l'auteur de La vie mystérieuse du vin aux éditions du Cherche Midi, chevalier des arts et des lettres. Car en effet, avec lui, le vin, c'est un art. Nous étions, et c'est le titre, le thème de cette émission, eh bien, c'est l'Occident qui a perdu le temps long, c'est le temps long aussi, ou ce qu'il reste de temps long en Occident, parce que on alterne systématiquement de l'un à l'autre. Alors, on était sur Parker, on pourrait rappeler aussi que cette chère Bourgogne, que vous appréciez tant, vous avez en effet consacré le premier voyage avec vos clients à la Bourgogne, d'ailleurs, à la Côte d'Or, qui porte particulièrement bien son nom, on rappelle que c'est une terre de temps long. La Bourgogne, c'est les Clunisiens, c'est les Cisterciens. C'est vraiment les moines, ceux qui donc sont en plus branchés non seulement dans une verticalité à la création, au créateur, mais à l'éternité. Donc aussi à la haute tradition.
C'est en fait c'est une région qui a une histoire évidemment avec les Burgondes, l'invasion des Burgondes, etc. Elle vient, on voit déjà que c'était une région particulière puisque quand même César va aller au Mont Beuvray pour apprendre à faire des métaux aussi sophistiqués
que ce que faisaient les Gaulois.
Voilà. Alors que les métaux romains étaient de moins bonne qualité, alors les épées, etc. Donc il va venir avec ses hommes apprendre la métallurgie des Éduins. Donc les Éduins, c'est une civilisation qui est déjà très sophistiquée, très éveillée. On sait qu'il y avait de la vigne dès le 1er siècle avant Jésus-Christ en Bourgogne. Alors, est-ce que c'est les Romains qui l'ont amené? Il y a des historiens qui se contredisent là-dessus.
On est étonné avec ces Gaulois qui connaissaient parfaitement le vin et pourtant sur lequel ils portaient un interdit sur la culture.
Oui, c'est particulier. Et ce qui est drôle, c'est que Rome, qui a quand même en grande partie corrompu le vin en l'additionnant, en le mélangeant, mais c'est normal, c'est une compréhension dictatoriale, donc le vin pur est dangereux puisqu'il est...
Bah Rome, c'est un peu la modernité occidentale d'aujourd'hui, c'est un peu les États-Unis, Parker.
Il y a un exégète qui est pas commun, qui s'appelle Paco Thielmont, qui fait des vidéos et des bouquins qui racontent l'Empire n'a jamais pris fin de ses à Macron. Donc, on voit bien quand même qu'il y a une filiation dans la continuation. Les États-Unis, enfin, nous, on est aujourd'hui gouvernés sous l'Empire américain, mais qui est la continuation, la continuité de l'Empire romain. Et donc, évidemment, que le vin est resté pur jusqu'aux Grecs. Et d'un seul coup, chez les Romains, on installe une dictature. N'oublions pas que c'est la boisson subversive, hein, c'est la boisson qui fait penser, c'est la boisson qui déclenche la curiosité. Donc, d'ailleurs, ça n'est pas une boisson, hein, c'est la boisson de l'esprit, c'est pas une boisson du corps. Et donc, évidemment que le vin a toujours dérangé les dictatures. Voilà. Donc,
ça explique pourquoi aujourd'hui on n'a jamais, dans nos pays, en France en particulier, tapé sur le vin. Hein, c'est absolument incroyable.
Ben, on est le pays du vin qui est le gardien, et notamment grâce à la Bourgogne qui va mettre le vin, grâce aux moines cisterciens, clunisiens d'abord, cisterciens, à un niveau sans doute jamais atteint dans les civilisations précédentes. Et en même temps, on va être le pays qui va taper sur le vin en permanence. C'est-à-dire que dès le premier verre, on a un cancer à chaque gorgée, hein, donc, etc., etc., etc. Donc on voit bien que le vin dérange. Et quand on voit des publicités d'associations contre l'alcool, on voit bien que c'est toujours un verre de vin qui est mis en avant.
Tout à fait.
C'est rarement un verre de Ricard ou de vodka, des grandes marques. Hein.
Alors,
voilà.
Donc alors on... que franchement,
oui, voilà.
Pas le même degré. Hein.
Et d'ailleurs, on voit que pendant la canicule, on a obligé les cavistes à fermer de 18h à 20h, sachant que c'est là leur plus gros chiffre d'affaires, alors que les bars de nuit, moi dans mon quartier au-dessus du 9e vers Pigalle, quand on remonte de la Trinité vers Pigalle, tout était ouvert jusqu'à 23h, 24h, et ça picolait des cocktails, des gins, des machins, des
trucs
comme ça.
C'est ce qu'on disait dans l'actualité du vin, c'est-à-dire, ouais. Et qu'on cesse de dire aviné, c'est larbin d'experts, des médias de grand chemin.
Bien sûr.
C'est alcoolisé. Il y a des gens qui s'alcoolisent.
Exactement.
Ça avine pas.
Et c'était pas les cavistes c'est pas les clients des cavistes qui ont rempli les hôpitaux. Ça, alors là, c'est quand même, c'est vraiment un mensonge, on a tapé sur les cavistes alors que c'est aujourd'hui les derniers qui défendent encore la civilisation du vin. Donc on voit bien que il y a quelque chose qui colle pas, c'est toujours cette boisson qui dérange, c'est pas la boisson de l'immédiateté, c'est une boisson, plus le vin est fait par des maîtres qui savent faire, plus le vin nous interroge, parce que moi je dis toujours, et je le vois aussi, c'était Marguerite Oursenard qui avait écrit aussi là-dessus quelque chose de magnifique, parce qu'on a l'impression, quand on vit une ivresse de vin, je parle pas de l'ivresse de l'alcool, je parle d'un seul coup, quand on est percuté par quelque chose, par un vin qui nous emplit, on a l'impression de vivre plus. Même si on n'a pas encore bu d'alcool, on a mis le nez dedans, on commence à avoir les premières gouttes qui hydratent nos papilles, là, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe, qui fait qu'on n'a pas du tout un gramme d'alcool dans le sang, et pourtant, il y a une ivresse de vie, une ivresse de vie. Et ça, quand on l'a vécu, et moi, c'est comme ça que je suis rentré dans le métier, c'est grâce à ça, j'ai une collaboratrice, c'est la même chose, qui avait un très beau métier, 53 ans, elle a basculé parce qu'elle a vécu une ivresse. Et aucun autre alcool ne permet ça. Aucun. Voilà. Et ça, c'est parce que c'est la dimension de l'unité. Le vin, c'est le symbole de l'unité, c'est-à-dire l'unification des quatre éléments en un, la lumière de la matière ou, encore mieux, l'éther, qui nous percute dans notre unité, à révéler. Et donc, c'est un chemin, c'est pas savoir si le Christ va l'utiliser. Alors, l'Église a complètement perdu la notion alchimique.
La meilleure preuve, c'est qu'ils ne donnent même plus le vin de messe à leurs fidèles.
Voilà.
Hein, comme ça.
Et en plus de ça, ils ne savent pas quelle en est la raison. Ils ont totalement, vous demandez à un prêtre, il ne sait plus le pourquoi de qu'est-ce que c'est sur le plan des éléments fondamentaux de l'univers qui vont se fusionner pour atteindre un état vibratoire dingue. Et le Christ, quand il va le célébrer dans la scène, c'est parce que c'est une vibration christique. Donc qui vient nous interpeller, il vient interpeller notre partie christique. Donc c'est pas le sang de Jésus qu'on boit, c'est une vibration christique, c'est-à-dire la fréquence christique. Malheureusement, quand évidemment la technologie, la corruption est passée là-dedans, évidemment il y a peu de vins aujourd'hui qui sont faits dans ces conditions-là. Mais le vigneron au départ est un alchimiste. Quand il accepte ce champ de force qui se révèle dans la cuve, qui va mettre en scène toutes ces particules et qui va les unifier et qui va séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire tout ce qui ne doit pas aller dans le vin, va être soit dans la lie, soit dans la rave, soit dans les baies, ça va partir.
Oui.
Ça va être évacué, comme si une cuve ou une barrique c'était un athanor dans lequel il y avait un mouvement, si vous voulez, comme une centrifugeuse, qui écarte tout ce qui ne doit pas être au centre. Voyez, ouais. Eh bien, dans la cuve, un vrai vin, c'est un champ de force.
C'est le subtil et l'épais aussi.
C'est le subtil et l'épais, exactement.
Ah oui, c'est. Mais alors, si les prêtres ont perdu, les prêtres d'aujourd'hui ont perdu cela, comme la gestuelle d'ailleurs, qu'on ne retrouve que dans l'artisan souvent, plus encore que chez l'artiste moderne en tous les cas, le moine, lui, il était conservateur et transmetteur de cette tradition. Bien sûr. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de cette époque médiévale?
Ben, si vous voulez, ça montre comment le temps long a été nécessaire. La Bourgogne s'est pas faite en un jour. J'entends des gens qui disent on va planter des vignes là parce qu'il y a des terroirs, etc. Oui, il y a des terroirs potentiels. La Bourgogne, c'est un terroir, c'est une géologie, effectivement, transformé par la nature, hein, parce que on sait que comment les vaches vont fertiliser, hein, les pelouses calcaires et en faire des terroirs tout doucement, c'est surtout la transformation du terroir par l'homme, mais pas par une transformation mécanique comme le Médoc où on a les ingénieurs hollandais vont assécher les marais, vont les fertiliser pour faire de la vigne. Là, c'est pas ça qui s'est passé. C'est que là, c'est tout simplement l'amour de la quête. C'est la quête de quelque chose de transcendant qui va faire qu'au fur et à mesure qu'on va planter de la vigne, on va la travailler, l'homme, les moines vont à la pioche. Hein. Chaque cep va être travaillé, va être enraciné en profondeur. Mmh. La vigne, quand elle est en franc de pied, avant le phylloxéra, c'est-à-dire avant qu'on greffe. Parce qu'au moment du phylloxéra, à partir de 1870 et à partir de 1890, par là, on a greffé sur le plan américain. Donc là, on a des racines moins profondes. Mais avant, quand on était sur les pieds nobles de Pinot Noir ou de Chardonnay, c'était enraciné jusqu'à 20-30 mètres. La vigne, tout doucement, elle aussi transforme le terroir. C'est-à-dire qu'il y a la géologie d'origine. Et cette géologie a été transformée par ce travail des moines qui vont passer leur temps à creuser au printemps et à l'automne autour du cep. Au printemps, ils vont faire un grand trou, ils vont couper toutes les racines superficielles, ils vont reboucher et même faire une butte autour du cep pour le protéger de l'été et de la chaleur.
Ouais.
L'hiver, à l'automne, après les vendanges, on va réouvrir pour recouper les radicelles de surface. Pour obliger les racines à descendre en profondeur. Donc, tout doucement, on va transformer sur 1000 ans ces parcelles et qui vont être dédiées à la vigne pour l'éternité. C'est complètement fou. Alors, quand on raconte ça à des œnologues qui se disent oh, « Tiens, là, il y a du calcaire, tiens, on pourrait planter de la vigne. » Oui, d'accord, ok, mais ne te méprends pas. Tu ne vas pas faire des grands vins avec la magie, parce que au bout de 1000 ans, même avant, évidemment, mais au bout d'un certain temps, si vous voulez, c'est cette terre qui est aimée et qui est attendue pour révéler quelque chose d'immense, hein, la lumière des ténèbres. Donc on est dans quelque chose qui est mystique, qui est alchimique.
C'est presque la fin de la malédiction, hein. On sait bien la malédiction, la fameuse antique malédiction, la terre, l'Adama, tu es maudit, tu seras maudit suite à justement au serpent, parce que le serpent, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit pour t'élever, tu n'as pas besoin de descendre. Alors que la sagesse extraordinaire qu'il y a derrière tout ce que vous nous racontez, c'est qu'il faut descendre de plus en plus bas pour s'élever. Et élever, il y a aussi le fait de s'élever, mais il y a aussi le fait d'élever.
Ah oui, c'est pour ça que j'insiste là dans le voyage bourguignon qu'on a fait. On a organisé une super visite avec une jeune femme qui nous a fait une visite extraordinaire du château de Claude Vougeot. J'invite les gens à y aller et à faire une visite. Parce que quand vous êtes au milieu de ces pressoirs, entre 400 et 800 ans, des pressoirs qui sont grands comme des maisons, hein, ils sont immenses en bois. Donc vous voyez comment ces hommes, quel rêve il y avait derrière pour se lancer dans un truc pareil, dans ces monuments de bois qui sont là encore aujourd'hui. Et puis, cet homme, cette statue au milieu du château de Claude Vougeot, dans le patio central, qui est le patio, donc, qui est un patio de lumière, une espèce de puits de lumière. Et vous voyez cette statue du vendangeur qui a son baquet de raisins sur le dos. Et il est dans une démarche humble. Il marche et il est tourné vers la terre. Il est là depuis 800 ans, cet homme, cette statue. Et c'est marrant parce que quand on commence à dire ça aux gens, quand ils le voient, il y a des petites larmes qui commencent à pointer parce que je leur dis, restez devant et regardez. Regardez ce que cette statue exprime. C'est quoi le vigneron ? C'est ça. Il est tourné vers la terre, vers le centre de la terre. C'est pas le soleil extérieur qui est cherché dans le vin. C'est le soleil intérieur. On cherche à atteindre le cœur de la terre. Donc c'est quelque chose qui est d'un mysticisme invraisemblable.
C'est comme le noyau de l'être, hein, le cœur de la terre.
Mais c'est ça, c'est nucléique.
Ah oui, c'est nucléique.
Et surtout, on voit ces cuves en bois où ces moines sont venus fouler le raisin, l'écraser. C'est-à-dire cette œuvre déjà alchimique par la plante, déjà par la conduite de la plante. Mais en même temps, on va encore aller plus loin. On va mettre à mort le raisin dans la cuve, chaque jour piétiner, on va le piétiner. Et là, c'est une mise à mort du raisin. Parce qu'il n'y a pas de vin sans mort de raisin. C'est une résurrection. Donc, là aussi...
C'est la descente dans la terre, c'est une mort.
C'est la seule boisson qui passe par là. C'est la seule boisson qui va vivre ça. Et qui nous fait vivre quelque chose. Et le temps court, dont tu parlais tout à l'heure, du monde de l'Occident...
La promesse du serpent.
C'est la promesse du serpent, exactement, qui oublie...
J'aurais ça tout de suite.
Exactement.
Allez, un claquement de doigts.
Voilà.
Et donc, pas de mort, pas besoin de résurrection, puisque pas de mort.
Exactement.
Vous ne mourrez pas. Ils ne se rendent pas compte le piège quand ils disent « Mais non, vous ne mourrez pas. » Alors qu'il faut mourir pour renaître, justement.
Et il y a une illustration qui est absolument sublime. Je crois que c'est dans « Vins rares ou disparus » d'un personnage qui a été très important dans la Bourgogne dans les années 60, qui a été un gardien important, qui était un grand homme, qui était pourtant un scientifique, un savant, mais qui était plus un philosophe, qui était un grand penseur, qui a travaillé avec Eugène Cancelier en alchimie. Donc, il avait une vision du temps long. C'était Max Léglise, d'ailleurs, un nom bien porté. Et quand à Nuits-Saint-Georges, ils ont voulu agrandir l'appellation sur les dessus. Et ils ont fait venir c'est dans les années 70, on a des gros tracteurs avec des gros broyeurs, on se dit on va broyer la roche, on va ramener de la terre, et on va faire un terroir à vigne. Évidemment qu'en Bourgogne, les anciens, ils étaient comme des fous, hein, parce que c'était un choc énorme. Parce que pour eux, ces pelouses calcaires qui sont au-dessus de la vigne font partie du terroir. Hein, c'est comme les forêts autour, etc. Tout ça, c'est le terroir. Et donc, ils ont fait du terroir. Je ne sais plus combien d'hectares, mais je crois que c'était 25 ou 30 hectares. Et il y avait certains vignerons qui étaient heureux de se partager un petit peu de terre supplémentaire en appellation du Saint-Georges. Tout va bien. Alors, imaginez, en Bourgogne, qui a plus de 1000 ans d'histoire, d'un seul coup, c'était un choc brutal. Et un jour, comme ça n'avait jamais donné des très grands vins, mais en 85, c'était un super millésime. Il y avait beaucoup de fruits, c'est un très très beau millésime, généreux, tout était bien. Et donc, il y avait une grande dégustation à Nuits-Saint-Georges, je crois que c'était à Nuits-Saint-Georges, et ils ont fait venir le fameux Max Léglise, qui était un dégustateur hors pair. Et puis, tout était à l'aveugle, et puis il passe avec son verre, puis son petit carnet, puis ses lunettes, puis il goûte, puis tout le monde le regardait parce qu'ils avaient glissé une bouteille de ce fameux cru, qu'il avait tout le temps détesté, en disant, eux disaient, oui, il est mauvaise foi, mais il disait, là on va le piéger parce que là, quand même, le millésime est superbe, etc. Et donc il avance, puis il goûte chaque vin, et puis alors il paraît, moi je ne l'ai pas rencontré, mais on m'a beaucoup raconté qu'il était capable de trouver même les. Alors il connaissait surtout la Bourgogne, hein, mais il était capable de trouver des fois des parcelles, à la parcelle, même pas Nuits-Saint-Georges, c'était Nuits-Saint-Georges, les Vaucrins, etc. Et on lui sert le vin dans son verre, il met le nez dedans, il le jette, il le goûte pas, et il dit, ça c'est un vin qui n'existe pas, puis il continue la dégustation comme si de rien n'était.
Il a tout de suite...
Parce qu'il n'y avait pas l'esprit. Parce que la terre n'était pas habitée par la vigne. Elle n'avait pas été habitée par les hommes de la vigne. Elle n'était pas attendue. Il n'y avait pas les forces qui passaient. Et donc, ça ne passait pas dans le vin. Alors ça, évidemment, quand on raconte ça à un œnologue, il dit, mais vous racontez, moi, j'ai fait des conférences, je me souviens, au Forum mondial de l'œnologie, il y avait notre fameux grand docteur Salmon, qui est le grand ponte de l'œnologie française à l'INRA, qui m'a dit, mais vous racontez n'importe quoi, c'est de la poésie, etc. Évidemment, ils ne peuvent pas entendre ça, ce n'est pas acceptable. Pour eux, le vin, c'est un tas de molécules, avec des molécules comme ça, des molécules comme ça, des molécules comme ça. Mais aujourd'hui, heureusement qu'avec la physique quantique, c'est comme le corps humain, on n'est pas un tas de molécules. Hein, voilà, on a tous les mêmes cellules, et pourtant, on est tous très différents. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on serait aussi différent? Eh bien, c'est l'invisible. Voilà, l'invisible qui gère ses cellules, etc.
C'est poétique, si on veut, c'est surtout mystique.
Voilà, exactement.
La vie mystérieuse du vin de Bruno Quenu, son ouvrage aux éditions du Cherche Midi, c'est un livre profondément mystique. Il y a la mystique et qui part d'ailleurs de l'originalité de Bruno Quenu, qui est le premier que j'ai pu entendre sur le vin parler d'abord de l'eau et comment ne pas y retrouver justement, hein, on a parlé de la scène des noces de Cana, la transformation de l'eau en vin.
Mais
l'eau, elle est essentielle. Et l'eau, non pas l'eau dans le vin au sens où je coupe.
Non, c'est l'eau des terroirs.
C'est les Gaulois d'ailleurs, hein, qui ont été les premiers à dire on ne met pas d'eau dans le vin. C'est un sacrilège. Par contre, l'eau du terroir.
C'est l'eau qu'on va chercher,
qu'ils vont puiser si profondément, que la vigne va chercher.
Exactement.
Si profondément.
Je me souviens d'un vigneron, j'arrivais pas à comprendre ses vins, il travaillait très bien. Et puis, je goûtais ses vins, je disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas.
C'est cette eau qui est transformée en vin, c'est les noces de Cana.
C'est les noces de Cana.
La vinification.
Exactement. Et donc, et au bout d'un moment, je lui dis, on était en train de marcher sur ces terroirs, je sentais des forces, je sentais quelque chose de vraiment puissant. Donc, je me dis, il a des terroirs. Il y a des forces énergétiques qui sont là. Donc, ces vignes-là étaient là depuis très loin aussi. C'est presque aussi vieux que la Bourgogne, pas tout à fait. C'était dans le Bugey. Et puis, au bout d'un moment, je lui dis, mais est-ce que tu as un puits, une source dans tes vignes? Il me dit, oui, oui. Mais je dis, est-ce que tu goûtes cette eau? Il me dit, non. Mais je dis, elle est potable? Il me dit, oui, oui, elle est potable et tout. Bon, on y va, on goûte l'eau et je lui dis, bah, écoute, tu sais ce que tu fais? Tous les matins, tu vas venir goûter cette eau. Et tu sais, tu vas goûter tes vins pendant les vinifications. Et tu vas voir quand est-ce que tu as coupé le fil. Voilà. Quand tu vas plus sentir cette énergie de l'eau là, que tu as là, et bien quand tu la sentiras plus, c'est que tu as fait une connerie. Voilà. Et en fait, ça l'a énormément perturbé parce que et lui, il voulait des vins quand même. Il avait été formé dans une école de dégustation, dans une école d'œnologie. Donc on veut faire des vins qui. Voilà. On ne nous apprend pas à vivre le vin. On nous apprend à le déguster. Le vin, ça se vit. C'est pas un objet de dégustation. Ça se vit. Et d'ailleurs, si les gens vivaient leur alimentation, beaucoup mangeraient plus pareil. Hein?
C'est sûr.
Voilà.
Il reste à peine 2 minutes et je voulais aborder un sujet, mais étant donné qu'on est, on a peut-être 1 minute pour dire, réunis pour 3 émissions d'affilée, ces échanges avec Bruno Quenu qui sont un véritable délice, un régal, et je pense que vous êtes nombreux à partager cet avis, chers auditeurs de Radio Courtoisie, dans ce florilège des arts. Je voulais aborder, mais là, dans cette émission donc, que nous allons poursuivre, nous ensuite, pour une prochaine émission que vous allez retrouver dans 2 semaines, chers auditeurs, vraiment, je vous donne 3 rendez-vous sur Radio Courtoisie, ces 3 émissions qui sont à la fois un parcours, on a vu aujourd'hui, c'était surtout un parcours en Bourgogne, et on recommencera, je pense, Bruno, on débutera l'émission prochaine, si vous le voulez bien, par l'expérience. Vous parliez de l'énergie de l'eau, de la vouivre.
Ah,
ça, évidemment,
oui.
Je pense que ça fait partie de ce parcours initiatique que vous offrez à certains de vos clients.
Oui,
justement,
bien sûr.
Sans faire de publicité spécifique, en tout cas, ceux qui pourraient être intéressés par les parcours de Bruno Quenu chez Philo Vino, qu'ils n'hésitent pas, on va directement, comment fait-on, on vient vous voir dans la boutique.
Oui, on appelle pour se renseigner pour les dates, parce qu'on ne le met pas, on les publie pas sur Internet, parce qu'on ne peut pas emmener, il y a un profil de gens, évidemment, alors le profil Radio Courtoisie, je pense qu'il est plutôt bon. non. Oui. Mais si vous voulez, on, par exemple, on pourrait nous demander pour un mariage ou pour une vie de garçon. Et on ne fera
oui.
pas. On fera un pas.
Enterrement de vie de garçon.
On
ne
fera pas. Il faut amener des gens qui soient attentifs. Ouais. Donc, on préfère les rencontrer, les avoir au téléphone, etc. Pour, voilà, je ne dis pas choisir, ce serait prétentieux, mais de respecter en même temps que ce soit pas. C'est pas un voyage touristique, hein, c'est vraiment autre chose. On rencontre des vignerons exceptionnels, hein. Et puis aussi cette année là, on a fait découvrir la tonnerie Rousseau avec Frédéric Rousseau, le propriétaire exceptionnel, qui nous a fait une visite de tous les métiers du tonneau en visu direct. Ce qui est pas normalement, ce qui est pas visitable. Voilà. Donc c'est des moments formidables.
Bon, on se retrouve dans 15 jours.
Ah, dans 15 jours.
Merci. Merci Bruno, merci Claudia pour la réalisation de cette émission. Merci chers auditeurs de votre écoute. Vous étiez bien dans le Florilège des Arts sur Radio Courtoisie sur le thème de l'Occident et la perte du temps long. Et nous retrouvons dans ces émissions ce temps long justement. Allez, excellente journée à tous.
Vous venez d'entendre le Florilège des Arts, dirigé par Nicolas Stocker, émission préenregistrée le 28 juillet 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie vendredi 21 août, de 10h à 11h et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.